Notre chronique politique, cette fois-ci avec Gaétan Lelièvre qui est avec nous. Évidemment, on va s'attarder un peu à toutes ces mesures politiques qu'on a mises en place concernant la COVID-19. Il y a un coût à ça. Il y a des chiffres qui ont paru justement hier pour nous donner un peu le portrait où on en est rendu. Vers où on s'en va? On parle de plus en plus de déconfinement tranquillement. On a vu là, qu'il y a de nouveaux services essentiels qui ont été autorisés. Alors, on en parle avec Gaétan Lelièvre. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Richard.
Oui, alors donc, le gouvernement, à ce moment-ci, là, fait face à une situation où on veut tenter, j'imagine, de relancer un peu l'économie. Puis, quand on regarde, évidemment, aussi tout le coût des mesures qu'on a mises en place, on a même des chiffres là, qui ont apparu hier qui nous laissent sous-entendre qu'il y a quelque part, il faut bouger. Là, et c'est là aussi, là, faut mesurer la ce qu'on va faire bouger, puis pas, parce que dans la dynamique, évidemment, de ce qui se passe à ce moment-ci au niveau de l'épidémie. Là.
Oui, il faut toujours garder en tête qu'on a deux défis au Québec présentement. Il y a deux défis constamment dans la tête là, de notre premier ministre, je suis convaincu. C'est le défi sanitaire, la santé, et le défi économique. Puis, présentement, les mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement du Québec totalisent environ 14 milliards de dollars. Ça correspond exactement à la réserve budgétaire de stabilisation qu'on appelle, qui est comme un surplus accumulé, une réserve que le gouvernement avait de 14 milliards. Donc ça a été annoncé dès les premiers moments de la crise. Le premier ministre et le ministre des Finances ont invoqué que jusqu'à 14 milliards de dollars d'investissement du gouvernement dans la crise du COVID-19, ben ça n'affectait pas l'équilibre budgétaire du Québec et on pouvait respecter la fameuse loi sur l'interdiction de déficit. Maintenant, le 14 000 $ de réserve a été épuisé.
Le 14 milliards, oui.
14 milliards, oui, j'ai 10 millions, je présume.
Oui, c'est ça.
On n'est pas habitué à parler de milliards en Gaspésie.
Non, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc,
donc, 14 milliards qui ont été engagés. Fait que là, jusqu'à aujourd'hui, on est en équilibre budgétaire. On n'a pas créé de déficit trop. Ça va bien, sauf que tout ce qui va être engagé à partir d'aujourd'hui, on s'en va vers un déficit. Donc, il va falloir que quelqu'un paye pour un moment donné. Donc, de là, la priorité du gouvernement de vouloir relancer l'économie, parce que non seulement en période comme actuellement, on investit de l'argent qui n'était pas prévu, on prend dans nos réserves, ça va bien, mais en plus, il y a des revenus qui sont plus au rendez-vous. Donc, on a un double défi, on vide notre réserve, puis en plus, les revenus ne rentrent pas. Donc, il faut quand même bouger au plan économique pour tenter de relancer l'économie, mais en même temps, c'est quoi notre autre défi? C'est la crise sanitaire, c'est de maintenir la population le plus possible en santé. Donc là, ça veut dire qu'on a mis le Québec sur pause, on a ralenti beaucoup d'entreprises, mais là, il y a un prix à payer. On veut réouvrir la valve pour que les revenus commencent à rentrer dans les coffres d'État, les taxes, les impôts, etc. Mais en même temps, on ne veut pas revenir dans une crise au niveau économique. Donc,
il y a vraiment un dosage.
C'est comment doser.
Ouais,
ben oui, c'est le fameux défi du déconfinement progressif. C'est ça qui est le gros casse-tête du gouvernement actuellement, ça, c'est clair.
Bien, il y a le fond des générations. Est-ce qu'on ne devrait pas aller piger là-dedans? Je sais que c'est pour les générations futures, mais là, on est dans un cas extrême aussi. On s'entend, là, cette pandémie-là sera historique aussi. Et les générations futures, celles qui la vivent aussi en ce moment-ci, est-ce qu'on pourrait comprendre de ce côté-là que les besoins sont grands et qu'on pourrait ou qu'on doit aller en prendre un peu dans ce fonds-là? Si on est rendu à l'extrême, là.
Mm-hmm. On parle de 8,4 milliards d'accumulés dans le fonds des générations en date de la fin de 2019, donc peut-être tout près de 9 milliards au moment où on se parle. C'est une grosse décision parce qu'il y a eu des engagements des derniers gouvernements précédents. Là. On parle de plusieurs gouvernements précédents qui sont engagés à constituer ce fonds-là justement pour le fonds, on l'appelle le fonds des générations. Donc, c'est pour les jeunes. Hein?
Ouais.
C'est un peu pour compenser peut-être certaines décisions qui ont été prises dans le passé au niveau environnemental notamment, qui étaient moins orientées en fonction de la vision de la jeunesse québécoise. Puis on veut dégager une marge de manœuvre justement pour investir dans des domaines, dans des secteurs qui répondent à la vision de la jeunesse québécoise. Donc, ça serait politiquement, selon moi, assez dur. Techniquement, on pourrait. Le gouvernement a le pouvoir de le faire. Il s'agit qu'il modifie les paramètres du programme, de la loi à la limite, puis ça peut se faire. Mais je pense que politiquement, ce serait mal vu. Moi, je suis d'avis que si on doit investir davantage que le 14 milliards qui a été fait à date, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement va se diriger vers une dette. Hein. Il va y avoir un emprunt, il va y avoir une dette. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un prix à payer pour la crise du COVID-19. Puis, à un moment donné, un peu comme on a eu des dettes de guerre qu'on appelait, bien, il va y avoir une dette là, de l'épidémie là, de la COVID-19. Puis, je pense qu'il va y avoir un moment donné, un emprunt qui va être fait. Puis, ça va être étalé sur un certain nombre d'années. Là, puis, les Québécois, Québécoises vont devoir le payer. Puis, c'est la même chose à Ottawa. Là. À un moment donné, Ottawa est rendu au-delà de 100 milliards d'investissements. Oui, il y a des réserves. Oui, le Canada est le troisième pays le moins endetté du G7. Donc, on est bien positionné financièrement, mais ça a quand même des limites. Puis, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir là, des dettes qui vont être accumulées avec le COVID-19. Puis, autant à Québec qu'à Ottawa, on va devoir, à un moment donné, assumer des règlements d'emprunt.
Ouais, et autant ailleurs, je pense que dans tous les pays sur la planète, tout le monde va être endetté. Là, on l'a vu, le PIB de chacun des pays cette semaine, c'est dans le rouge, à part la Chine, là, qui va avoir peut-être un petit pourcentage, mais il reste que la majorité des pays vont sortir de là endettés. Donc, on est à peu près sur le même pied d'égalité que tout le monde. Là. Donc, ce ne sera pas une catastrophe de dire qu'on peut pas équilibrer le budget et on est en déficit, là.
Exactement. Le Canada et le Québec vont être dans l'équation internationale, puis tout devient relatif à un moment donné. Hein. On a une photo hein, de la lecture ou du positionnement économique de l'ensemble des nations avant le COVID. Puis là, si on prend la lecture, la photo d'aujourd'hui, ben tout le monde a diminué. Fait qu'en proportion, il y a un nouvel équilibre qui est en train de se faire. C'est un peu une crise économique internationale qu'on vit. La crise sanitaire s'est transformée très rapidement en crise économique, puis tout le portrait économique, financier, planétaire est en train de changer. Mais la beauté de ça, entre guillemets, c'est que tout le monde écope. Donc, il y a moins d'écart, de différence entre les États. Puis je pense qu'il va y avoir un plan de redressement mondial au niveau économique qui va devoir s'amorcer. Probablement sur des nouvelles... avec des nouvelles cibles, avec un nouveau modèle. On va probablement revoir beaucoup de choses au niveau, par exemple, de l'autonomie, hein, notre autonomie alimentaire. On va devoir travailler davantage là-dessus au Québec pour être moins dépendant, notamment les légumes, les fruits, etc. Il va falloir développer des concepts comme tout ce qui est la culture en fer, etc. Il va falloir aussi regarder au niveau de l'autonomie pour les denrées médicales, l'équipement médical. Peut-être que le Québec et le Canada ne seront pas totalement autonomes, mais moi, je vois des alliances entre plusieurs pays, puis qu'on ait une collaboration. Puis, par exemple, dans le domaine médical, ça va être X pays qui va s'occuper, en cas de besoin, de fournir à un ensemble de pays les biens. Il va y avoir des ententes pour ne pas qu'on se ramasse avec des situations comme on a vécu avec les États-Unis, où le président Trump a décidé de bloquer les... On se souvient, là, l'histoire de 3M, des fameux masques là qui ont été bloqués. La compagnie a dû se battre avec le président des États-Unis pour pouvoir... continuer à approvisionner certains pays, dont le Canada. Donc, il ne faut plus que ça se reproduise. On va devoir faire des ententes pour tenter de pallier à ça dans le futur, c'est clair. Donc, un nouveau modèle économique, puis en espérant que l'économie reprenne. Mais c'est sûr qu'il y a un prêt à payer pour la crise actuelle. Il y a des engagements qui sont financiers, hein, qui sont nouveaux, qui sont d'envergure. On parle de 14 milliards au Québec à date, au-delà de 100 milliards au fédéral. C'est sûr que ces argents-là ne sont plus dans les coffres. Ça enlève une marge de manœuvre au Québec et à Ottawa notamment.
Alors voilà. Et dans les différentes pistes de solutions, évidemment, on a parlé tantôt un peu de déconfinement, donc de laisser sur le territoire les nouveaux ces commerces essentiels là, donc pour les garages. Donc on voit qu'il y a un petit redémarrage qui se fait, mais avec un dosage aussi.
Oui, le déconfinement progressif est amorcé. On a eu le maintien d'abord des services essentiels qui a toujours été en place, l'alimentation, pharmaceutique, etc. Maintenant, on a assisté cette semaine à l'ouverture des stations-services, des pépinières, certains autres services. Moi, je crois que chaque semaine, on va ajouter des services. Un, pour répondre à la crise économique, on doit relancer l'économie. Il faut que l'argent commence à rentrer dans les coffres de l'État. On en a besoin. Puis aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a l'autre facette qui est la question de l'immunisation naturelle. Hein. Présentement, la population. Ça a été une véritable réussite, là, le confinement que le gouvernement a mis de l'avant. Les Québécois et les Québécoises ont écouté le gouvernement, puis on a réussi à stopper la pandémie. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on ne peut pas rester en confinement tout le temps. Là. Le virus, il continue à nos portes. Il est dans la société, il est dans l'air. La journée qu'on va sortir, oui, on risque de l'attraper, mais si ce n'est qu'une question de temps, là, puis je pense que le gouvernement voit l'automne. Le rôle d'un gouvernement, c'est toujours de se projeter un peu plus loin, hein, de faire de la planification. Puis là, on voit l'automne 2020 où on va avoir la fameuse grippe annuelle qui va arriver malheureusement. On a des taux d'occupation dans nos hôpitaux, surtout dans les grands centres urbains, de 125-150%. Déjà sans le COVID, on vit avec ça. Fait que si on, s'il n'y a pas assez de gens qui s'immunisent naturellement d'ici l'automne, ces gens-là attrapent le COVID, puis s'ajoute déjà au surpeuplement des hôpitaux, ça va être extrêmement inquiétant ce qui va se passer. Donc, le gouvernement aussi, je dirais, la volonté d'éviter ça. Donc, pour éviter ça, il faut qu'il y ait des gens qui attrapent le COVID. On parle peut-être des plus jeunes qui ont, en général, senti beaucoup mieux, c'est-à-dire, ont moins d'effets négatifs. Donc, il faut qu'il y ait une partie de la population qui s'immunise le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut faire, c'est continuer à protéger nos aînés, des 70 ans et plus, les gens qui ont des problèmes de santé. Eux, il va falloir continuer à les garder, selon moi, en confinement un peu plus longtemps. La distanciation physique va devoir s'appliquer parce que pour eux, les conséquences sont plus importantes. Mais en général, hein, les moins de 70 ans, puis si on parle des plus jeunes, ben ça passe à peu près comme un gros rhume, là. Donc, il faut que cette clientèle-là, selon moi, soit immunisée de façon naturelle. C'est ce que le gouvernement doit viser sûrement pour éviter un problème majeur à l'automne et à l'automne 2020 et à l'hiver 2021. Donc, pour différentes raisons, oui, le déconfinement, au plan économique, puis même au plan sanitaire, m'apparaît inévitable, mais ça va devoir se faire avec beaucoup de précautions, de façon progressive, et si jamais on voit que le virus progresse, ben il faut immédiatement mettre un frein, puis ralentir. Il faut gérer, autrement dit, l'évolution de la pandémie autant que faire se peut. Hein. C'est le double défi du gouvernement, l'économie, mais aussi le sanitaire, la santé.
Gaétan Lelièvre, merci.
Toute une responsabilité pour notre premier ministre, puis son équipe, en tout cas, c'est vraiment un défi de taille, là. Mais à date, il faut dire que le gouvernement du Québec s'en tire très, très bien. Le fédéral également a pris du temps à démarrer, mais là, on voit que M. Trudeau est beaucoup plus, je dirais, actif. On voit qu'il est plus dans les décisions, ça va mieux. Donc, bravo quand même à nos décideurs qui en ont plein les bras, c'est ainsi.
Gaétan Lelièvre, merci encore pour cette chronique. À la semaine prochaine.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.